On va parler de voyage parce que c'est une réelle passion pour toi.
Ouais.
Et c'est là que l'inspiration en partie vient, c'est quand tu es loin de chez toi. Qu'est-ce que ça déclenche, le voyage, pour que ça pousse à l'écriture?
Il y a deux choses. Je pense qu'il y a deux aspects du voyage qui font en sorte que ça stimule la créativité, chez moi en tout cas. La première chose, c'est que tu es loin de toutes les influences du quotidien,
ouais.
Tous les réseaux sociaux, tes amis, ta routine de tous ouais. les jours qu'on fait tout le temps, t'as plus ça. C'est comme une espèce, ton temps est libéré d'une façon extraordinaire. T'as beaucoup plus de temps pour réfléchir. Puis comme t'es loin, puis généralement, j'amène pas mon téléphone ou rien. Donc okay. j'ai pas de réseau, je suis pas connecté avec le monde extérieur. Donc c'est comme si j'existe pas. Donc j'ai plus le temps d'observer qu'est-ce qui est autour de moi. Puis la deuxième chose, c'est être dans un environnement qui est soit hors du commun ou juste différent dans celui que tu es habitué de voir. Puis ça stimule la créativité comme rien. Puis je pense que généralement, ce qui stimule la créativité chez moi, c'est de sortir de ce qui m'entoure. Parce que la routine, c'est bien, mais tu peux pas t'inspirer de tu vois toujours la même chose, tu vas toujours avoir la même chanson qui va ressortir, ouais. les mêmes textes. Donc c'est général, c'est les deux choses principales pour moi.
Est-ce que ça te fait du bien, ces moments-là, seul avec toi-même? Parce que pour beaucoup de gens, ça leur fait peur d'être tout seul avec eux, d'avoir juste à réfléchir. Pour toi, t'en as besoin?
J'en ai besoin, puis c'est j'ai eu cette peur-là aussi la première fois. Le premier voyage que j'ai fait, c'est je partais de mon village d'Hudson pour la première fois à 21-22 ans. J'avais toujours habité chez mes parents, j'avais le même cercle d'amis, j'avais la même routine, on allait au même bar toutes les semaines.
Il y avait quelque chose d'implanté.
Il y avait quelque chose de très implanté, j'avais jamais pris un avion. C'était vraiment, puis je suis parti, puis j'ai décidé d'aller en échange à Paris avec moi, l'université, puis j'avais peur parce que c'était pas familier. Je louais un appart pour la première fois, j'étais dans un contexte que je connaissais pas, des gens que je connaissais pas, j'avais pas d'amis là-bas. Donc c'est quelque chose qui est très déconcertant. Et puis j'ai décidé de prendre le risque de le faire. Et puis en revenant, j'ai réalisé que j'avais grandi plus dans ces 6 mois-là que j'avais grandi dans toute ma vie. Et puis c'est par la suite que je me suis dit, même s'il y a une petite peur, parce qu'il y a toujours une petite peur, tu sais, de partir, surtout quand tu pars pendant un temps prolongé, les gens, ma grande inquiétude en fait, c'était, est-ce que les gens vont se souvenir de moi? Est-ce que mes amis vont toujours être là quand je reviens? Puis la réponse, effectivement, c'est oui. Mais c'est une peur que les gens ont. Ils ont peur de se faire oublier ou de plus avoir leur place dans leur routine ou de perdre leurs habitudes. Mais une fois que tu conquéris cette peur-là, c'est extraordinaire l'effet que ça peut avoir.
Tu sors du circuit touristique, il me semble, quand tu fais des voyages. Tu vas pas dans des endroits où les touristes vont en masse, par exemple. Tu es allé en Égypte, tu es allé en Amérique centrale, tu es allé en Ouganda aussi, en Asie. Des voyages que les gens osent peut-être moins faire. En tout cas, c'est moins des voyages de masse. Pourquoi ces endroits-là t'attirent? Évidemment, tous pour des raisons différentes, j'imagine.
C'est intéressant que tu cites l'Égypte comme étant un endroit que les gens vont pas parce que c'était à un moment donné l'endroit le plus touristique.
T'as raison, mais maintenant, on a plus peur d'aller en Égypte.
Avec je veux pas dire
c'était
avec raison.
Tu me dis que c'était peut-être une relation biaisée qu'on avait avec l'Égypte.
Absolument. Je pense que généralement, on a une relation biaisée avec les pays qu'on considère dangereux pour des raisons de... Aujourd'hui, la tendance, c'est que tout le monde a peur de l'islamisme extrémiste. Une peur qui est pas vraiment aussi fondée qu'on le pense, mais c'est parce qu'on est tellement bombardé d'informations et de peur de « Oh mon Dieu, attentat ici, attentat là ». J'ai des amis qui sont au Pakistan présentement. Ils sont en train de voyager au Pakistan. Ils sont bien corrects. La vie va bien, ils se mettent pas ils se mettent pas les pieds dans le danger, tu vas pas dans des endroits où c'est réputé pour être pas bien. Pour la même raison que si tu vas à Détroit aux États-Unis, tu vas pas aller dans certains quartiers parce que tu sais qu'il y a des gangs. Puis tu peux pas aller là. Mais c'est la même chose dans tous ces autres pays. Puis une des raisons que ça m'attire, ces endroits-là, c'est justement pour défier le préjugé que les gens ont envers ces endroits-là. Puis de dire hey, moi je suis allé en Ouganda, puis il n'y a rien qui m'est arrivé. Puis j'ai eu que des belles expériences, puis les gens étaient super sympathiques. Et puis, peut-être que j'étais allé à Paris, puis je me suis fait attaquer par quelqu'un dans le métro, c'est pas arrivé, mais
Ça aurait pu.
Ça aurait pu. Il y a une chance que ça arrive partout, mais c'est pas quelque chose qui me prévient d'aller. Et puis, si je choisis des endroits qui sont moins touristiques, c'est parce que je trouve ça plus intéressant d'aller avoir un œil sur quelque chose que les gens voient pas souvent.
Et c'est de se mêler à la population aussi. Quand on va dans un endroit plus touristique, on se mêle souvent à d'autres touristes.
Oui.
Alors que quand on va dans un autre endroit, on se mêle vraiment à la population locale, aux coutumes, à la nourriture, à comment ils vivent, eux, au quotidien.
Puis comme je disais, c'est une des raisons que j'aime voyager, c'est sortir de la zone de confort. Mais je trouve un peu ironique, si tu sors de ta zone de confort pour aller dans un pays étranger, mais tu restes juste avec des touristes dans des endroits où c'est juste des touristes, dans le fond, t'es en train de regarder un film en réalité, des hologrammes. Tu pourrais aller sur Google, regarder un film de ça, puis ça donnerait le même effet. Puis pour moi, pour aller dépenser plein d'argent pour aller prendre un selfie avec la Tour Eiffel, ça m'intéresse. Tu sais, je l'ai fait. Je l'ai fait. Mais parce que c'est important aussi. Tu sais, il y a une raison pourquoi certains endroits sont touristiques. Ça, c'est une chose à considérer aussi. C'est qu'il faut pas éviter ces endroits-là juste parce que c'est touristique. C'est stupide de dire ça. Parce qu'il y a une raison pourquoi tu veux aller voir le Colisée à Rome. Parce que c'est extraordinaire. Puis il y a une histoire riche. Puis tu veux en faire partie. Puis tu vas faire la queue avec les touristes. Parce que des choses comme ça vaut la peine d'aller voir le Mona Lisa au Louvre. Tu sais. Tu vois 50 personnes qui prennent des photos. J'ai une photo de 50 personnes qui ont des iPads qui sont en train d'essayer de prendre une photo de Mona Lisa. Puis c'est hilarant, mais en même temps, il y a quelque chose de spectaculaire qui attire les gens vers ces choses-là. Puis ça inspire de les voir.
Est-ce que le retour est tough quand tu reviens de voyage? Par exemple, tu es allé en Asie pour une longue période. Est-ce que le retour est difficile, le retour à la réalité? Est-ce que c'est tough? Parce que tu as sorti de ta routine, tu as sorti des coutumes nord-américaines pour t'imprégner complètement de la culture asiatique. Est-ce que ça fait mal quand on revient?
Vraiment, vraiment. En fait, je dirais que il y avait l'espèce de choc culturel en Asie où j'étais très libre pendant que j'étais là pendant 5 mois. J'ai fait Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam, Malaisie, Singapour, puis Taïwan. J'ai passé 2 mois au Taïwan. Et il y a une espèce de libération qui se fait quand tu passes autant de temps. Mais je pense que le plus gros choc culturel a été en Ouganda. C'était la première fois que j'allais dans un pays qui était en développement, comme on dit. Et puis, une chose qui m'avait vraiment frappé quand j'étais revenu chez mes parents, parce que j'étais allé voyager, puis là, j'avais plus d'argent, donc je suis retourné chez mes parents. Puis je suis revenu chez moi à Hudson, je pense 2 jours après, je suis sorti dans le bar local comme tous mes amis faisaient tous les vendredis. Puis je suis allé là, puis j'ai eu une espèce de moment où il y avait des trottoirs, puis il y avait des lumières, des lampadaires, puis il y avait de la musique qui jouait dans des speakers, puis des affaires, tu sais, des affaires qu'on prend tellement pour acquis. Puis je marchais sur le trottoir, là, puis c'est la première fois depuis 2 mois que je marche sur un trottoir pavé, puis pas de la terre. C'était un sentiment qui était « wow ». Finalement, je touche le trottoir et je dis « wow, quelle chance qu'on a d'avoir des trottoirs. C'est tellement extraordinaire. La chance qu'on a des lampadaires. Les rues sont éclairées. Je me sens en sécurité. Puis ça, c'est l'effet qui vient par la suite. T'sais. Quand tu es en voyage, tu vois plein de choses puis c'est extraordinaire. Puis tu es influencé par ça. Mais c'est aussi l'effet que ça te donne quand tu reviens puis que tu compares les deux.
On ne prend plus les choses pour acquis.
Non, après un voyage comme ça, puis j'étais là pour aider à filmer un documentaire avec quelques amis. Puis, tu sais, on a vu des choses là que c'est. Tu sais, on habitait dans des huttes là-bas. Et puis les gens là-bas habitent dans des huttes de glace. Je dis les gens là-bas, c'est sûr que pas tout le monde, mais une grande portion de la population habite dans des espèces de huttes de terre cuite. Et puis c'est ça la vie, là. C'est ça la vie de tous les jours.
Et ils sont heureux là-dedans. Oui.
Ben, ils sont heureux.
C'est ce qu'ils ont toujours connu. Ouais.
C'est ça, c'est ce qu'ils connaissent, donc c'est ce que c'est, mais en même temps, tu sais, ils voient, y a, comme dans tout pays pauvre, il y a une espèce de contraste avec les riches.
Ouais.
Il doit toujours avoir des riches dans un pays, les gens qui gouvernent et tout ça, les business, et puis les expatriés, tous les blancs qui viennent et qui font. Ils font du trouble là-bas. Ils voient, tu sais, ils voient la possibilité de la vie, puis ils veulent ça aussi. Puis c'est juste intéressant d'observer ces choses-là. Donc, ce voyage-là en particulier, ça m'a donné une espèce de il y a de la neige qui tombe. Puis,
la glace réagit à l'entrevue.
Ben, c'est ça. La neige est choquée, donc elle tombe. Fait que ce voyage-là en particulier, ça a été une espèce de choc culturel où revenir, c'était douloureux pour l'âme pour revenir, mais ça m'a donné une grande appréciation pour ce que j'ai.
Ça serait quoi le prochain voyage de rêve, l'endroit où tu voudrais aller?
Là, tous les pays que j'ai pas fait encore, dans le fond.
Parce que là, évidemment, là, t'es en tournée, donc ça va être difficile de dire « je pars en voyage ».
C'est dur, mais là, présentement, à moins d'avoir des opportunités extraordinaires hors du Québec, je sais pas, Mumford & Sons décide de nous amener en tournée ou quelque chose comme ça.
Oui, on va les appeler.
On l'espère. Mais à moins qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire qui se passe, décembre, janvier, là, date, j'ai bloqué mon calendrier pour pouvoir repartir. Puis, parce que la façon que j'aime voyager, partir moins qu'un mois, c'est pas...
Non, mais ben non, c'est vraiment...
C'est pas le même effet. Puis j'ai vraiment... j'ai à la fois la chance, mais c'est un choix. Là. C'est moi qui choisis de vivre ce type de vie-là. Comme avant, je travaillais 6 mois barman, 6 mois voyage.
Ouais.
C'est un choix. Puis c'est faut que tu veuilles le faire. Et le prochain, j'ai une fascination avec toutes les stans.
Okay.
Les, Turkménistan, Tadjikistan, ouais. Kyrgyzstan, Afghanistan même, toute cette région-là, le Pakistan, il y a quelque chose de très très intéressant dans ça parce que je connais rien, puis c'est une espèce de blend de l'Europe de l'Est, l'Asie, la Russie,
ouais.
L'Inde, puis tout ça.
C'est un mix de culture, d'influence.
Ouais, mais il y a ça, puis j'ai une fascination avec les pays musulmans.
Okay.
C'est quelque chose qui est très... tout le monde parle de ça présentement, pour bien ou pour le mal. Et puis, moi, je pense que trop souvent, on parle de choses comme ça sans vraiment savoir de
non,
quoi on parle.
C'est vrai.
Et puis, on fait juste citer des affaires qu'on a vues sur l'Internet. C'est tout des ci, c'est tout des ça. Et puis, mais on comprend pas vraiment ce que c'est. Les gens, ils savent pas c'est quoi l'islam. On donne notre opinion sur quelque chose parce qu'on a vu ça sur CNN ou quoi que ce soit. Moi, je veux le voir pour de vrai. J'ai vécu cette espèce de... cet affront-là avec l'islam un peu... c'était pas un affront, c'est exposure, comme on dit. J'ai été exposé à l'islam en Égypte.
Okay.
Et puis, c'est extraordinaire comme religion. Puis les gens qui suivent la religion à la lettre et non, ne sont pas influencés par les cultures de droite ou tout ça. C'est très fascinant. Puis on a beaucoup à apprendre. Puis je pense que la meilleure façon, surtout que maintenant, je suis dans une position où j'ai un microphone, puis je peux dire des choses aux gens. Je peux aller là, regarder moi-même avec mes propres yeux puis parler aux gens pour de vrai puis après ça revenir puis dire hey, c'est peut-être pas ce que vous pensez, peut-être réfléchir un peu à ce que vous dites. Je pense un pays musulman, je sais pas où encore.
À suivre. Tu viendras nous en reparler.
Ouais.
Justement, on te redonnera un micro.
Absolument.
Pour que tu nous en reparles à ton retour. Le documentaire, on va le voir quand?
Hey, mon Dieu. C'est
là, j'imagine qu'on est en montage, donc si on est revenu.
Ben, hey, ce documentaire-là, on l'a filmé en 2012.
OK.
Ce qu'on avait fait, c'est qu'on a ramassé plein d'argent pour acheter de l'équipement vidéo puis audio. Puis on l'a amené. Puis l'intention, c'était de filmer un documentaire avec une troupe de théâtre qui aidait à sensibiliser les gens sur des pratiques pour ne pas avoir le VIH.
Ouais, OK.
Qui est un problème là-bas. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le documentaire puis on a laissé tout l'équipement aux locaux dans un centre culturel.
Oh, wow.
On leur a appris comment utiliser l'équipement.
Okay.
Parce que les autres, ils utilisaient en 2012 encore les VHS.
Bien sûr.
Et fait qu'on leur donnait comme 10 000 piastres d'équipement pour faire des films, tu sais, locaux, de leur perspective. Nous autres, on a fait notre film, puis on est revenu, et puis c'est un peu intéressant comment la vie fonctionne, mais on était 5 dans nos fins d'université, puis
okay.
on est tous partis dans des directions différentes. Moi, je tenais la perche, là, je faisais le son.
Okay.
J'étais le conseiller politique de la gang.
Oui, parce que tu as étudié en Sciences Po. Ouais.
Mais le documentaire n'a pas encore vu le jour.
Okay.
On a fait on l'a montré à un public il y a 2 ans.
Okay.
2 ans, ça faisait 3 ans qu'on l'avait filmé. On a fait un premier montage, puis on a décidé qu'on n'était pas content. Puis tout le monde, la vie a pris son courant, puis tout le monde est trop occupé. Puis là, on est en train de... c'est mon ami qui est le chef du projet. Il est en train de travailler sur... il est en train d'essayer de le couper en capsules plutôt que d'avoir un long documentaire. De couper des capsules non plus.
Okay.
Mais ça va s'appeler le TASO Documentary Project. TASO est un TASO, The AIDS Support Organization.
Okay.
On va sûrement le partager sur Facebook quand ça va être prêt.